musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
L'appel du collège Notre-Dame-du-Port invite Agnès Duteil, certifiée en psychologie positive par l'Université de Cleveland, pour une conférence « Favoriser l'estime et la confiance en soi des enfants » le vendredi 3 juin à 20h. Bonjour Agnès Duteil.
Bonjour Roland.
Comment est arrivée un petit peu cette idée et ce projet de conférence sur la confiance en soi et surtout la confiance en soi des jeunes ?
Alors, j'ai moi-même un cabinet de thérapie, de psychothérapie à Nantes. Et on va dire que la grande majorité des personnes qui viennent me voir en thérapie, c'est avec cette question-là, en disant, je viens de voir parce que j'ai un problème de confiance en moi. Alors, il y a plein d'exemples, hein, ça peut aller de, ça fait 5 fois que je passe mon permis, et puis je sais que je sais conduire, et puis quand je suis à côté du moniteur, eh ben, j'y arrive pas. C'est le cas de dire, je perds les pédales, et puis j'échoue. Ou alors, dans mon travail, il faut que je prenne la parole en public, et puis j'ai pas assez confiance en moi. Ou alors même, on m'a proposé un travail, enfin une promotion dans mon travail, mais j'ose pas l'accepter parce que je me sens pas légitime. Ou bien en fait, j'ose pas assumer la femme ou l'homme que je suis. Je sais que j'ai des idées différentes, je sais que j'aimerais bien être différent, mais seulement j'ose pas l'assumer. Donc il y a plein de symptômes différents, mais la demande est la même. Et c'est comme ça que je me suis dit, puisque je travaille beaucoup avec les parents, que c'était intéressant de donner l'information aux parents de comment se construire la confiance en soi, comment est-ce qu'on la favorise chez l'enfant, comment en même temps on peut la tuer, ou en tout cas l'abîmer. Voilà, c'est comme ça que c'est venu.
Et la confiance chez les enfants, ça se travaille très jeune.
La confiance en soi chez un enfant, elle se construit in utero. Quand la maman est enceinte, déjà, dans ce qui se construit, la manière dont les parents vont accueillir et accueillent cet enfant, dans la manière dont il est attendu, déjà, il y a quelque chose qui se construit pour l'enfant.
S'il y a de la douceur, par exemple, dans les couples, l'enfant, oui, normalement, sera plus doux qu'un autre enfant où les parents s'engueulent pour dire ça, les choses crûment.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, surtout ce que l'enfant a besoin, en tout cas pour sa confiance en soi, hein, en lui-même, c'est d'être accueilli. C'est-à-dire que la première chose qui va se construire chez l'enfant, in utero déjà, c'est le lien. C'est le lien qu'il a avec ses parents. Ce qui construit un enfant, c'est le lien. C'est le fait que nous sommes, nous, déjà les êtres humains, des êtres de lien. Notre cerveau, en fait, encore aucune machine n'a réussi à remplacer notre cerveau à cet endroit-là, c'est-à-dire le fait de se dire le cerveau nous met en lien les uns avec les autres. Et c'est ça qui se construit déjà chez l'enfant. Il arrive dans une famille, il est en lien avec sa mère, il est en lien avec son père. Donc, est-ce que quand il arrive, il est accueilli, ou est-ce que finalement l'accueil est plutôt tiède, ou est-ce que même quelquefois il y a du rejet? Est-ce qu'il y a de l'incompréhension? Est-ce qu'il y a de la dépression? Est-ce qu'il y a même quelquefois, alors on n'y peut rien, je veux dire en fait, les ruptures, ce qu'on appelle les ruptures de lien, elles arrivent quelquefois même malgré les parents, c'est-à-dire si un enfant arrive avant terme et qu'il est mis en couveuse, par exemple, alors même si maintenant, dans les services de néonates comme ça, on connaît cette histoire de lien et qu'on favorise vraiment la venue des parents, le contact peau à peau pour qu'il y ait quelque chose qui se construise, mais n'empêche que l'enfant, il arrive au monde, il est mis dans une couveuse, c'est pas idéal pour un lien, quoi. Ou alors, la maman, elle souffre d'une dépression postpartum, et ça, eh ben, on n'y peut rien. Moi-même, j'ai eu 5 enfants, les 5 naissances ont été très différentes, et je n'ai pas accueilli mes enfants de la même manière, avec la même spontanéité, la même chaleur, la même douceur, le même réconfort. Et voilà. Et le lien, il se construit dès ce moment-là. Il se construit dès ce moment-là, et tout au long de l'enfance, l'adolescence, le jeune adulte, c'est-à-dire que comment est-ce que l'enfant est en lien avec ses parents au moment des conflits de l'adolescence? Comment est-ce qu'en fait on va pouvoir traverser ces conflits tout en restant en lien? Quand on doit poser de l'autorité à l'enfant, comment est-ce qu'on va poser une autorité tout en restant en lien?
C'est une vaste question, ça.
Voilà, tout ça, c'est effectivement, c'est à ce moment-là que ça travaille la confiance en soi. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très difficile, finalement.
Oui. Et les parents, il y a certains parents qui sont démunis par rapport à leurs enfants. Comment travailler la confiance en soi chez les parents et aussi chez l'adolescent ou chez l'enfant en même temps? C'est très difficile.
Alors, quand moi je fais mes conférences, mais quand je fais mes ateliers, enfin, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que je trouve vraiment très important, c'est de comprendre déjà comment ça s'est passé pour nous-mêmes. Mmh. On ne peut pas comprendre comment le faire chez nos enfants quand on n'a pas compris déjà comment ça s'est fait pour nous-mêmes. L'idée, c'est déjà de se connaître un minimum soi-même. Donc, de comprendre comment nous, comment est-ce qu'on a été élevé? Est-ce que nous-mêmes, on a des manquements dans la confiance en soi? Il y a différentes étapes dans la construction de la confiance en soi, ce que j'explique dans la conférence. Donc, je pose les questions aux parents. Est-ce que vous avez ce symptôme-là, par exemple? Est-ce que vous avez plutôt ce symptôme-là? Alors, ça parle de cette étape-là. Essayez de voir dans votre histoire comment c'était chez vous et avec vos parents à ce moment-là de votre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est important que les parents puissent comprendre comment ça s'est construit pour eux. Et puis après, qu'ils puissent comprendre du coup comment ils vont aider leur enfant à construire ça chez lui. Bon, et puis les parents, bien sûr, il y en a tout autant qu'on est, on est nombreux à ne pas avoir vraiment confiance en nous-mêmes. Alors bien sûr, on va se dire, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on peut aider nos enfants? Ben oui, déjà en comprenant comment ça se construit, mmh. Et puis en comprenant comment on peut la restaurer, parce que c'est quand même ça qui est incroyable dans le cerveau de l'être humain, c'est que on peut avoir des traumas quand on est petit, et puis on arrive à se restaurer quand même. Et le premier lieu de restauration pour un jeune adulte, c'est le couple. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui construit la confiance en soi? Je viens de vous le dire, en fait, chez l'enfant, c'est le lien qu'il a avec ses parents, c'est ce qui construit, et la confiance que ses parents ont en lui.
Ses parents et ses frères et sœurs aussi, non? Ça fonctionne aussi?
Oui,
ou ses grands-parents?
Les parents, bien sûr que les frères et sœurs, ils ont un impact, ça je dis pas le contraire, mais quand même, ceux qui ont le plus gros impact, c'est quand même les parents.
Le lien fort, c'est les parents, oui.
Et après, en tant que jeune adulte, finalement, avec mon conjoint, avec mon amoureux, mon amoureuse, comment est-ce que je vais pouvoir restaurer ce qui a été abîmé? Puisque avec mon amoureux, mon amoureuse, qu'est-ce que j'ai? J'ai un lien, justement, et j'ai un lien de confiance. Et ça restaure éventuellement la confiance en soi que l'on n'avait pas. Parce que notre amoureux, notre amoureuse peut nous dire, mais tu sais, moi j'ai confiance en toi, tu vas y arriver. C'est stimulant et c'est comme ça qu'on se répare éventuellement.
En gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut stimuler les enfants dans le positif.
Dans le positif, je ne sais pas si c'est dans le positif, il faut stimuler les enfants déjà. Ce qui construit la confiance en soi, encore une fois, c'est le lien et la confiance. La confiance qu'on a dans l'enfant. Tu sais, en fin de compte, quelquefois je suis pas d'accord avec toi. Quelquefois tu sors du cadre et c'est pas acceptable pour moi. Et quelquefois il faut que je pose une sanction parce que c'est pas juste ce que tu es en train de faire.
Mais alors quelle sanction?
Et en même temps, j'ai confiance en toi en tant que petit bonhomme, en tant que petite bonne femme, j'ai vraiment confiance en toi et je fais la différence entre toi. Est-ce que tu es en train de faire? Vous voyez, une des choses fondamentales dans la confiance en soi, c'est de faire la différence entre l'enfant, ce qu'il est, l'individu qu'il est, et éventuellement ce qu'il est en train de faire. Donc quand on parle de l'autorité, de pouvoir dire, ça ce que tu viens de faire, ça c'est sanctionnable.
Mais il faut poser des cadres, mais leur expliquer, c'est bien ça.
C'est pas tellement leur expliquer, c'est difficile en fait, Roland, voyez, d'expliquer ça en si peu de temps. Mm-hmm. C'est pas tellement leur expliquer, c'est la façon dont on pose le cadre. C'est de pouvoir dire à un enfant, le processus pendant lequel en fait on pose le cadre, ce serait de pouvoir dire ça. Ce serait pouvoir de dire, tu sais en fait, ce que tu es en train de faire là, je peux comprendre pourquoi en fait tu es très en colère. C'est vrai que le fait que ton frère vienne casser tous tes Lego par exemple, ça c'est vraiment pas agréable et ça me met vraiment en colère et je comprends vraiment que tu sois en colère. Et en même temps, tu vois, le fait de lui taper dessus, ça c'est pas acceptable.
Non, mais ça on est bien d'accord.
Effectivement, on va poser une sanction par rapport à ça. Même si je comprends pourquoi tu es en colère.
Mais vous voyez, quel type de sanction?
Alors ça, c'est encore autre chose, mais vous voyez, en fait, déjà, une première chose, Roland, dans ce que je dis là, c'est-à-dire de commencer par dire à l'enfant que je peux comprendre pourquoi il était en colère, pourquoi il a pété un câble, entre guillemets, Je vais commencer par lui dire ça. Et donc, ce que je fais...
La compréhension, c'est important, oui.
La compréhension de ce qu'il fait. Je fais bien la différence entre lui en tant qu'être humain et ce qu'il a fait. Et je vais sanctionner l'acte. C'est-à-dire, en fait, alors, si en plus, moi, je parle en psychologie positive, puisque mon dada, quand même, c'est la psychologie positive, je vais même parler de la réparation. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire à cet enfant-là, tu vois, là, ce que tu viens d'abîmer, par exemple, ce que tu viens d'abîmer, c'est la tranquillité de notre soirée. Parce que nous, effectivement, et en tout cas moi, j'avais besoin de tranquillité pour cette soirée, j'avais besoin de repos pour cette soirée. Et effectivement, ces disputes et cette dispute avec ton frère, est-ce que tu viens de faire à ton frère, pour moi, c'est quelque chose, tu m'as abîmé ça, et je vais te demander de réparer. Comment tu vas réparer ça?
Mais les enfants, ils comprennent tout ça?
Absolument. Et un enfant, à partir de 2 ans et demi, je peux vous le dire, je l'ai vu, je le vis tous les jours. À partir de 2 ans et demi, un enfant, les parents qui ont compris cette démarche-là, mais ça se comprend pas en 5 minutes, on est d'accord.
On est bien d'accord, on l'entend bien, oui.
Voilà, ça dure pendant presque un an, les ateliers. Ça dure un an, les ateliers. Vous voyez, une fois, on se voit une fois par mois. Pendant un an. Donc, c'est tout un processus. Mais moi, quand je vois ça, en fait, ce que je peux voir, c'est des enfants de 2 ans et demi qui sont là-dedans et qui disent spontanément à leurs parents, je vais réparer. C'est-à-dire que les parents, ils n'ont même plus besoin de demander. C'est l'enfant qui va dire aux parents, je vais réparer.
Ça doit faire... Les parents doivent faire ouf quand ça se passe comme ça.
C'est incroyable, oui. Ah, c'est... Alors, je ne dis pas que l'éducation positive, on n'a plus de problème avec nos enfants et qu'on vit dans un monde idyllique, etc.
Non, ça, on l'a bien compris.
Non, mais l'idée, c'est d'éduquer nos enfants à la responsabilité, au respect, à la responsabilité, au lien, à la confiance. Voilà.
Les enfants qui sont... Il y a certains enfants qui sont assez violents tout de même. Comment les parents peuvent les éduquer dans une sorte de confiance? Car les enfants, ils essayent de pousser à bout tout de même leurs parents.
Alors quand vous
certains
dites ça,
enfants,
vous voyez, quand je travaille avec les parents, quand les parents me disent, posent une question comme ça, je vais leur dire, eh bien écoute, raconte-moi, quand tu me dis que par exemple ton enfant est violent, quand il te pousse à bout, raconte-moi une histoire, raconte-moi un jour où il a fait ça, qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe. Parce que vous voyez, sous le terme violent, poussé à la boue, il y aurait plein d'histoires possibles et plein de raisons possibles. Mmh. Donc ce qui est important, c'est de comprendre dans cette famille-là, quelle est la particularité de cette famille-là, qu'est-ce qui se passe.
Le travail sur soi est vraiment très important dans ce que vous nous racontez.
À la compréhension de comment nous on fonctionne, oui. Mmh. Ça c'est clair. Ça oui, bien sûr. Et on a envie de. C'est une base, oui.
Et un adulte peut-il tuer la confiance en soi d'un enfant?
Oui.
Vous nous avez dit oui.
Absolument. Et quelquefois avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte pour avoir élevé. Moi-même 5 enfants, hein, c'est que quelquefois, avec beaucoup d'amour, encore une fois, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais pu abîmer la confiance en soi des enfants. Alors, des exemples, hein, par exemple, je viens de dire que j'ai essayé de vous partager, c'est le fait que ce qui construit la confiance en soi, c'est la confiance qu'on a dans l'enfant. Ok. Si on dit à un enfant, par exemple, tu sais, on va aller voir papy, mamie ce soir, tu me promets d'être gentil, hein, tu me promets. Quand on demande des promesses aux enfants, vous voyez,
ça fonctionne pas.
Voilà, des promesses, c'est-à-dire tu me promets d'être gentil, tu me promets de bien travailler le trimestre prochain, tu me promets de ci, tu me promets. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'on ne dit pas, mais que ça sous-entend. Ça sous-entend, moi, j'ai pas du tout confiance que tu sois capable de le faire.
Mmh. Oui,
alors,
c'est toujours
une promesse.
Il y a un manque de confiance.
Ben bien sûr, et le confiance, il est pas.
L'enfant le ressent.
Ben bien sûr, il est tellement explicite. Si je dis à l'enfant, tu me promets. Vous savez, en fait, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me disais, mais je comprenais pas trop, et j'avais besoin de passer par un autre intermédiaire, c'est-à-dire de me dire, bon, si mon mari me disait, mais ma chérie, le mois prochain, tu me promets qu'en fait, tu vas réussir à gérer les comptes, hein. Qu'est-ce que j'entendrais? Moi, j'entendrais qu'en fin de compte, il n'a pas du tout confiance et puis qu'il est très inquiet.
Un manque de confiance.
Ah bah oui. Eh ben l'enfant, c'est la même chose. D'ailleurs, ça m'énerverait si mon mari me disait ça. Je lui dirais, bah attends, t'as pas confiance là ou quoi là? On en a déjà parlé 20 fois. Vous voyez, ça me ferait même monter probablement de la colère.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire à un enfant qui va chez ses grands-parents au lieu de dire « sois sage » ? Comment faut aborder la chose?
Alors, vous voyez, quand j'ai dit « tu me fais la promesse de ». Donc, en fait, quand un enfant va chez les grands-parents, ce qui serait peut-être intéressant dans la voiture, si on a besoin de remettre des choses, en fait, moi, je parle beaucoup des règles. Quand on travaille des ateliers, vous voyez, sur les règles, on y travaille pendant 3 heures, rien que les règles. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les règles, on a à les travailler avec les enfants. C'est-à-dire que là aussi, de la même manière, vous voyez, en fait, nous, à Nantes, là, en ce moment, on a beaucoup de manifs, beaucoup de rébellions par rapport à une loi. Et la chose que disent les manifestants, c'est quoi? C'est on nous a pondu une loi et on nous a rien demandé. Et nous, on n'est pas d'accord avec cette loi. Alors, au moins, on a envie d'avoir notre mot à dire. Mais les enfants, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on édicte une règle, c'est important d'en parler avec les enfants. D'abord, il ne faut pas beaucoup de règles dans une famille, mais les quelques règles qu'on va poser, c'est important de les poser avec les enfants. Par exemple, quand on est à table, moi, ce qui est vraiment important en tant que parent, tu comprends, à table, c'est que moi, j'ai besoin de me reposer aussi. Je suis aussi après une journée de travail, donc j'ai besoin de calme. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que le repas se passe dans le calme? Alors, les enfants, par exemple, vont donner des suggestions, etc. Ok. Et si, effectivement, dans la mesure où, par exemple, vous n'arriveriez pas à tenir ce qui a été décidé, quelles sanctions on pourrait donner? Alors, les enfants vont les dire aussi, en fait. On peut parler tout ça. Ok, c'est-à-dire que exactement comme nous, en tant que citoyens, on a besoin, et sinon ça nous révolte, qu'une loi soit, comment dire, discutée avec nous-mêmes, qu'il y ait une navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale avant qu'en fait la loi soit érigée. Édictée. Et puis, une fois que la loi est édictée, par contre, elle est immuable. Voilà, c'est la loi. Et
c'est comme ça, oui.
Si on la transgresse, il y a une sanction. Voilà, au départ, elle a été discutée. Ensuite, c'est la loi, on ne peut plus la transgresser. Eh bien, les règles à la maison, c'est la même chose. Elles sont discutées au départ. Une fois qu'elles ont été discutées, qu'on est tous d'accord, on les écrit, exactement comme nous, on a un code civil. On les écrit, on les affiche, on les signe. Très important, les enfants les signent, les parents les signent, et on est d'accord en fait ensemble pour dire, ben voilà, on est d'accord sur cette règle-là dans la maison. Et si la règle n'est pas respectée, l'enfant a le choix de ne pas les respecter, c'est un choix, exactement comme nous, en fait, on sait qu'on doit rouler à 90 sur une route, hein, mais on a le choix, on peut rouler à 110 si on veut.
Ou 130, mais on peut avoir une sanction.
Ou 130, mais on sait qu'effectivement, on est sanctionnable. Mais c'est notre choix. Mmh. On a fait le choix de rouler à 130 et d'avoir une sanction. Et ben pour l'enfant, c'est la même chose. Et on va lui dire ça, d'ailleurs. On va pas commencer à lui dire des choses épouvantables. On va lui dire, ok, tu as fait le choix. On avait discuté ça ensemble, et tu as fait le choix de transgresser la règle. Eh bien, écoute, il y a la sanction qu'on avait décidée ensemble.
Oui, il faut vraiment toujours discuter pour faire comprendre à l'enfant que...
Il faut discuter au départ, et ensuite c'est immuable. Une fois que la règle elle est posée, elle est posée. Mmh. Et là, vous voyez, ça veut dire qu'il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de discussion. Ça veut dire que ce que ça demande aux parents, c'est d'être extrêmement vertébré. Ça a été discuté entre nous, et on va tenir ça entre nous.
Oui, mais ça c'est pour les enfants qui comprennent. Vraiment, les jeunes enfants, ils ne peuvent pas comprendre, ceux qui ne parlent pas. Est-ce que c'est le même principe ou
Alors, ceux qui ne parlent pas, on va dire, vous l'avez dit avant 2 ans.
Avant 2 ans, oui.
Oui. Alors, avant 2 ans, là où c'est très différent, c'est que le cerveau de l'enfant, à ce moment-là, est très différent. C'est-à-dire qu'il est uniquement dans son cerveau droit.
L'émotion.
Le cerveau émotionnel. Il n'a pas accès à la raison seul. Et donc, ça veut dire que, et ce qu'on sait, c'est qu'un enfant, pour apprendre, il a besoin de son corps. C'est avec son corps qu'il va apprendre. Ça veut dire que, par exemple, sa maman ou son papa va lui dire « tu ne touches pas à la prise ». Et les enfants de 2 ans, ils vont y aller 20 fois, 30 fois, essayer de toucher à la prise en regardant leurs parents dans les yeux.
Exactement,
et les parents,
oui.
Ils vont se dire « oui ». Et les parents ont l'impression que les enfants les narguent.
C'est non. Ça, c'est pousser l'adulte, essayer de pousser l'adulte. Même si l'enfant est petit, il essaie. Non.
Moi, je ne dirais pas que les enfants les narguent. Je dirais qu'en fait, les enfants sont en train d'apprendre. Comme nous, exactement comme nous, quand en fin de compte on a appris, tout à l'heure je donnais en fait l'exemple du permis de conduire, comme nous on a appris à apprendre à conduire, combien de fois on a calé, combien de fois on a oublié de regarder dans le rétro, combien de fois, des centaines de fois. Heureusement qu'en fait le moniteur à côté de nous nous a pas dit « mais tu le fais exprès, t'es en train de me narguer là ou quoi ?» Voyez ? Ah non ! Voilà, vous êtes en train d'apprendre et pourtant vous avez, quand vous passez votre permis de conduire, au moins 18 ans. Alors un enfant de moins de 2 ans, c'est exactement la même chose. Il recommence, il est en train d'apprendre. Et comme il ne peut pas apprendre avec son cerveau gauche, qui est le cerveau de la raison, il apprend avec son corps et avec l'émotionnel. Et nous, en tant que parents, on a effectivement à répéter. Tu sais que c'est pas possible de toucher la prise. Et on va enlever l'enfant de la prise. Alors moi, ce que je conseille souvent aux parents, c'est effectivement quand on a une maison avec, en fait, dans une maison, quand on a un enfant de moins de 2 ans, eh bien, essayez que la maison la soit la plus zen possible. Il n'y a pas de bibelot, il n'y a pas de choses comme ça. Comme ça, ça évite effectivement de répéter toujours les mêmes choses, puisque l'enfant, il a besoin de recommencer et de recommencer pour apprendre.
Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit.
Jusqu'à ce qu'effectivement ça rentre dans son cerveau gauche. Mais comme il n'y a pas accès tout de suite, et ce que l'on sait, c'est que l'enfant n'a pas accès à son cerveau gauche avant 7 ans, voyez, de manière spontanée, tout seul, l'enfant n'a pas accès à son cerveau gauche avant 7 ans. Donc ça veut dire qu'avant, il apprend avec son cerveau émotionnel. Et à force de répéter, à force d'expliquer de manière empathique et bienveillante, le parent peut petit à petit emmener un enfant de 2 ans dans son cerveau gauche. Mais ça demande du travail, parce qu'il n'y a pas accès spontanément.
Et pourquoi pas lui taper sur la main pour lui faire comprendre que ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas le faire?
Quand on tape un enfant, mais une petite tape sur la main, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a un stress chez l'enfant, parce qu'il y a une peur chez l'enfant. C'est pour ça qu'en fait, éventuellement, il va se dire « oh là là, il y a un truc que j'ai fait qui ne va pas bien ». D'accord ? D'ailleurs, ça ne va pas l'empêcher éventuellement de recommencer quand même. Mais bon, ça, les parents des enfants de 2 ans, ils le savent bien. Mmh. Des fois, ils ont mis une tape et puis l'enfant, il recommence quand même. Bon, mais même, à la limite, même si on se disait, ok, du coup, il va s'arrêter, pourquoi il s'arrête? Parce qu'il a peur. Et donc, la peur chez l'enfant, le stress chez l'enfant, ça libère, comme chez tous les êtres humains, 2 hormones qui sont toxiques, qui sont le cortisol et l'adrénaline, qui nous sont nécessaires quelquefois. Le stress est quelquefois quelque chose qui nous est nécessaire, et si on les secrète, c'est pourquoi? Parce que quand on est sous les hormones de stress, eh bien, on va voir éventuellement, on va courir plus vite pour se sauver d'une situation qui est dangereuse pour nous, hein. C'est à ça que ça sert, en fait, au départ. Sauf que, dans le cerveau d'un enfant, le fait qu'il soit inondé de ces 2 hormones, le cortisol et l'adrénaline, c'est extrêmement toxique pour son cerveau qui est immature, et ça braille les neurones. En fait, ça grille les neurones de l'enfant, exactement. Ça lui grille des neurones. C'est-à-dire que, à la limite, et moi j'ai eu quelquefois, en fait, au cabinet des enfants, parce que, quand même pas, vous voyez, là, quand on parle de malveillance, etc., en France, aujourd'hui, il y a 2 enfants par jour qui meurent sous les coups de leurs parents, hein. Donc, faut aller voir. Bon. Donc, vous voyez, sur toute l'échelle de la maltraitance, en fait, il y a une échelle qui est quand même assez vaste. Alors là-dessus, effectivement, moi j'ai vu en cabinet, ça m'est arrivé 2 fois, de voir des enfants débiles à cause des maltraitances qu'ils avaient reçues. Débiles, vraiment.
C'est-à-dire, complètement grillés. Voilà, ils étaient perdus.
Voilà. Le cerveau complètement grillé. Donc bien sûr qu'effectivement, heureusement que c'est pas toujours comme ça, sauf que nous, ce qu'on peut dire, c'est que de manière quotidienne, quand on stresse un enfant en le grondant, en le tapant, eh bien ce qu'on sait, c'est qu'on inonde son cerveau de ces hormones-là et qu'à ce moment-là, on abîme son cerveau. On abîme son cerveau de façon irréversible.
Et il peut finir complètement fou.
Il pourrait finir comme ça. Et en tout cas, moi, quand je...
Il y a toujours une influence sur le cerveau.
Une influence sur le cerveau. Et vous voyez, en fait, hier, j'ai travaillé, en fait, avec un papa. Il me disait justement qu'il avait envie de faire différent avec ses enfants, qui racontait en fait que quand il était petit, en fait, il était maltraité, et qui me disait
qu'est-ce qu'il appelait maltraitance?
Alors, par exemple, il me racontait que quand il était petit, on lui avait mis un panneau dans le dos pour dire qu'il était menteur. Vous voyez? Et en fait, il a dû aller à l'école avec ce panneau dans le dos.
Ah, mais ça, c'est horrible. Non, mais une petite claque, une petite calotte de temps en temps, c'est ça le...
Mais qu'est-ce qui se passe quand on donne une calotte à un enfant? C'est-à-dire, si le parent donne une calotte à un enfant, c'est pourquoi? C'est pour lui faire peur.
Oui, ou pour lui faire comprendre que... Non, ça, vous n'êtes pas d'accord du tout.
On veut qu'il comprenne par quoi? Par la peur. D'accord. D'ailleurs, il comprend pas, en fait, je vous le dis, dans ces cas-là, parce qu'il est complètement dans son cerveau droit.
Ce que vous nous disiez tout à l'heure, oui.
Donc, il a pas accès à son cerveau gauche, donc il comprend pas. Simplement, ce qu'il sait, c'est qu'il a peur. Et donc, il ne va pas recommencer éventuellement parce qu'il a peur. Pas parce qu'il a compris.
Oui, c'est le stress qui lui dit non, n'y va pas.
Voilà, exactement.
Ok.
C'est tout. Voilà. Et en même temps, donc on sait qu'effectivement, si on a envie qu'il comprenne quelque chose, c'est raté. Il n'a pas compris, il a peur. D'accord. Deuxièmement, on sait qu'on est en train de lui griller des neurones. Et troisièmement, là, je ne vais pas avoir le temps, en fait, de vous expliquer ça, mais on sait quoi? On sait qu'on aura peut-être un enfant qui sera docile sur certains points, mais qui en même temps sera rebelle sur d'autres. Parce que vous voyez, en fait, on peut avoir peur pendant un moment et se soumettre à une autorité pendant un moment. Et puis, à un moment donné, l'autorité, eh ben, c'est comme une cocotte minute. Hein, on va essayer de se rebeller contre l'autorité.
Oui, c'est pour ça qu'il y a certains jeunes qui se mettent à fumer ou à boire, non? À l'âge de 14, 13 ans.
Par exemple.
Par exemple.
Absolument. Par exemple. Absolument. Oui. Ou qui sont
en cause de peut-être.
Leurs parents, qui claquent les portes, qui refusent d'aller, qui sont en rupture de scolarité, qui sont là-dedans, qui sont dans la révolte.
Et par rapport à tous ces sujets, vous avez écrit un livre aussi.
Un livre aussi. Vous voyez, ce sujet qui me... Quand vous entendez, hein, Roland, au son de ma voix, comment je suis passionnée par tout ça.
Ça s'entend, oui.
Oui, bien sûr, parce que j'ai vraiment envie, j'ai vraiment la conscience, en tout cas la conviction que l'éducation, une éducation différente, c'est vraiment quelque chose qui peut changer le monde. Vraiment.
Et dans votre conférence, vous proposez 19 outils pour aider les enfants à se développer. La confiance en soi.
Je propose des outils, oui.
19.
Je vais expliquer aux parents comment, en fait, on peut, les parents de manière, sans s'en rendre compte, moi, c'est ce que j'ai fait encore une fois, je n'ai pas malheureusement éduqué toujours mes enfants comme ça, je m'en suis rendu compte assez tard.
Tout le monde fait des erreurs, c'est aussi humain de faire des erreurs.
Absolument, absolument, tant qu'on le sait pas, tant qu'on nous a pas appris ça, eh ben, on le sait pas. Ça, c'est, et donc voilà, on fait des erreurs. Après, on continue à faire des erreurs, quelquefois, mais en conscience. Et puis, à force de travailler, à force de comprendre tout ça, ben, on arrive à se changer un peu. Voilà, mais on passe tous par ce chemin-là de la connaissance. Donc dans ma conférence, j'essaye d'expliquer comment, avec beaucoup, d'abord comment ça se construit, la confiance en soi, toutes les étapes, comment avec beaucoup d'amour, quelquefois, on peut abîmer la confiance en soi de l'enfant, et puis comment on peut au contraire la stimuler. Et oui, j'ai écrit tout ça dans un livre qui s'appelle La psychologie positive avec les enfants, parce que ça, j'ai vraiment à cœur de partager tout ça avec les parents, ouais.
Et il y a aussi un site internet, lesateliersdupositif.fr.
Voilà, absolument.
Agnès Dutheil, voilà. On vous retrouve sur l'Île-Dieu, ça sera vendredi 3 juin à 20h au collège Notre-Dame-du-Port. Merci beaucoup de toutes ces informations.
Eh bien, merci à vous, Roland.
À très bientôt. Au revoir.
À très bientôt, au revoir.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma et en compagnie de Martine. À demain, au revoir.
Musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.